Europe Midi, Patrick Cohen.
Bonjour et bienvenue, il est midi et demi. En Ile-de-France, pourra-t-on freiner l'épidémie sans nouvelles mesures de freinage du type confinement? L'exécutif est sur le fil du rasoir, décide de faire évacuer des patients pour dégager des lits de réanimation. AstraZeneca à nouveau en retard de livraison en Europe à cause des États-Unis qui bloquent des exportations de doses. En France, un seul cas de thrombose chez une personne vaccinée avec AstraZeneca d'après le réseau de pharmacovigilance, sans lien avec le vaccin. Des caméras intelligentes dans les lieux publics pour mesurer le port du masque. Un décret vient de donner le feu vert. Une prime Macron pourrait bénéficier à plus de 4 millions de travailleurs de deuxième ligne, caissiers, routiers, agriculteurs, salariés agricoles, etc. Ce soir, les retrouvailles du cinéma pour les Césars. On va en parler en fin de journal. Et puis, invité l'Europe Midi, Delphine Horviller, qui publie « Vivre avec les morts » chez Grasset.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'Île-de-France sur un fil face à la hausse continue des patients Covid en réanimation. Près de 1100 désormais en région parisienne. Presque le pic de la deuxième vague. Le seuil critique se rapproche, Victor Delande.
Oui, 1080 patients très précisément sont aujourd'hui en réanimation. Pour comparer effectivement avec le pic de la deuxième vague, c'était le 13 novembre dernier. Les services de réanimation d'Île-de-France comptaient exactement 1138 personnes. La barre va être franchie, c'est une certitude, car entre les entrées et les sorties, la région francilienne doit prendre en charge 20 patients supplémentaires chaque jour minimum. Et ce qui inquiète particulièrement les autorités sanitaires, c'est qu'en novembre dernier, le pays était reconfiné, les contaminations étaient en forte diminution. Autrement dit, sur le terrain, les médecins voyaient la fin. Alors que cette fois-ci, sans restriction, le nombre de nouveaux cas continue d'augmenter chaque jour. Doucement, mais ça monte toujours. Au niveau national, les hospitalisations se stabilisent, mais les entrées en réanimation continuent d'augmenter. Comment l'expliquer? Avec les variants désormais majoritaires, les formes plus graves sont plus nombreuses. Et ça explique donc qu'à un niveau d'épidémie presque stabilisé, les réanimations se remplissent plus vite.
Et donc, comme lors de la première vague, les autorités de santé se préparent à des évacuations, des transferts de malades.
Oui, le ministre de la Santé, Olivier Véran, l'a annoncé hier. Plusieurs dizaines d'évacuations de patients d'Île-de-France, voire plus, seront effectuées dans les prochains jours. Le problème, c'est que ça ne s'improvise pas. Il y a actuellement des réunions dans toutes les agences régionales de santé pour faire un point précis sur les disponibilités. Mais la situation est beaucoup moins évidente que l'année dernière, comme l'explique le professeur François Braun, patron des SAMU de France.
C'est effectivement la grande difficulté de la situation actuelle par rapport à il y a un an. C'est qu'il y a un an, les régions étaient très touchées, le Grand Est, l'Île-de-France, un peu les Hauts-de-France, et puis le reste était assez disponible. Et puis on avait arrêté l'activité partout, donc il y avait des places partout. Là maintenant, toutes les régions sont touchées, plus ou moins, moins en ce qui concerne la façade ouest, mais la façade ouest a continué à avoir son activité habituelle, et donc les services de réanimation sont quand même pleins de patients non-Covid.
Pour vous donner un ordre d'idée, un TGV sanitaire avec 24 patients à bord, il faut entre 38 et 72 heures pour l'organiser. Autre remarque, il y a un an, tous les trains étaient à l'arrêt. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il va donc falloir intercaler ces TGV sanitaires dans le trafic. Tout ça est possible, donc, mais ça va prendre un peu de temps.
Victor Delande, merci. Il n'y a pas de raison de ne pas vacciner avec AstraZeneca. Déclaration de l'OMS à l'instant. L'Organisation mondiale de la santé tente de calmer le jeu face à l'épidémie de précaution partie de pays nordiques face à des cas de formation de caillots sanguins. L'Agence européenne du médicament répète que ce risque de caillots n'est pas plus élevé chez les personnes vaccinées que chez les autres. Et en France, dernier rapport du réseau de pharmacovigilance, un seul cas de thrombose multiple a été relevé chez une personne vaccinée et rien ne permet de conclure que cet effet soit en lien avec le vaccin. Voilà pour l'aspect sanitaire. Côté livraison, ça coince toujours. AstraZeneca réduit encore ses objectifs et ses promesses, bien en dessous des commandes passées par l'Union européenne. C'est le commissaire Thierry Breton qui a tiré l'alarme hier soir et apparemment, Isabelle Horry, vous êtes à Bruxelles pour Europe 1. Ces nouveaux retards ne tiennent pas à des aléas de production, mais d'import-export.
Effectivement, cette fois, la productivité de l'usine belge d'AstraZeneca n'est pas en cause, selon ce que m'a confirmé une source européenne. Cette usine avait été pointée du doigt quand le groupe a annoncé ses premières baisses de livraison. Souvenez-vous, l'Europe espérait au départ plus de 100 millions de doses au premier trimestre. Et puis, il y a quelques semaines, le géant anglo-suédois avait dit « ça sera 40 ». Et maintenant, eh bien, on n'est plus qu'à 30 millions de doses, avec aussi des prévisions plus basses pour les mois suivants. Pourquoi ? parce que pour atteindre les 40 millions, AstraZeneca comptait sur ses autres sites de production dans le monde. Sauf que voilà, ces usines britanniques ne produisent que pour le Royaume-Uni, contrat oblige. Et en Inde et aux USA, il y a des restrictions sur les exportations de vaccins. Washington n'a toujours pas autorisé celui d'AstraZeneca. Des dizaines de millions de doses attendent dans les frigos, selon le New York Times. Mais la Maison-Blanche refuse de les laisser partir vers l'Europe. À Bruxelles comme à Paris, on attend désormais de la clarté et un plan d'action de la part du laboratoire. Un laboratoire qui n'a pas réagi officiellement sur ce sujet.
De la clarté, effectivement, à venir, on espère. Isabelle Horry, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles. Notez encore que Sanofi commence les tests de son second vaccin à base d'ARN messager, celui-ci. Et puis que l'Italie va se refermer à nouveau. Le gouvernement de Mario Draghi devrait annoncer aujourd'hui la fermeture des écoles, bars et restaurants dans la majeure partie du pays à partir de lundi. L'Italie, qui vient de passer la barre des 100 000 morts dus au Covid, voit l'épidémie repartir à la hausse et des hôpitaux qui débordent. Hier, 26 000 nouveaux cas et 373 morts en 24 heures. En France, des caméras intelligente dans les transports en commun pour mesurer le respect du port du masque. Et seulement cela, pas pour identifier les réfractaires. Le projet à l'étude depuis des mois vient de recevoir un feu vert officiel, décret publié ce matin, Aurélien Fleureau.
Oui, c'est un dispositif qui a été conçu spécifiquement pour mesurer le taux de port du masque dans les transports ou même dans des lieux comme des marchés. La société Datacalab l'avait lancé avec la RATP au moment du premier déconfinement, le 12 mai dernier. L'expérimentation avait tourné court parce que la CNIL avait demandé plus de garanties, notamment sur le droit à l'opposition de la part des voyageurs. Cette fois, le cadre légal est posé avec ce décret. Il ne s'agit pas de reconnaissance faciale, explique Arnaud Fischer, cofondateur de Datacalab.
Le but de ce qu'on fait, c'est de ne stocker aucune image. Donc pour cela, on va installer des petits ordinateurs à côté des caméras qui vont traiter en 1/10 de seconde les images. Et ce qu'on va garder, c'est uniquement deux chiffres, un nombre de personnes et un pourcentage de port de masque. Et la grande nouveauté d'ailleurs, c'est qu'on est maintenant capable de détecter si le masque est plus ou moins bien porté. En dessous du nez, au-dessus du nez, etc.
Le ministère des Transports soutient le dispositif, tout comme la RATP ou Île-de-France Mobilité. Les premiers retours d'expérience de mai dernier ont pu apporter quelques données, comme le constat que le port du masque était un peu moins respecté le week-end et aux heures creuses en semaine. Même si tous les opérateurs de transport le disent, plus de 95% des passagers respectent l'obligation du port du masque.
Aurélien Fleureau.
Europe Midi, Patrick Cohen.
La suite, dans un instant, une nouvelle prime Macron à l'étude pour les salariés de deuxième ligne.
Europe Midi. Patrick Cohen.
Ils avaient été appelés lors du premier confinement travailleurs de deuxième ligne. Ces millions de salariés dans l'agriculture, l'alimentation, la grande distribution qui ont continué de faire tourner le pays. Tout cela pourrait être les bénéficiaires d'une nouvelle prime Macron, Olivier Samin.
Oui, vous vous souvenez de cette prime pouvant aller jusqu'à 1000 euros que les entreprises pouvaient verser à leurs salariés, prime défiscalisée et exonérée de cotisations sociales. Matignon réfléchit effectivement à une réactivation de ce dispositif qui, cette fois-ci, serait ciblée sur ces millions de salariés qui ont tenu leur poste lors du premier confinement, dans un contexte où, rappelez-vous, on ne savait pas encore grand-chose sur les risques de contagion et où les masques étaient un produit rare. Une mission a travaillé depuis quelques mois pour identifier précisément ces travailleurs dits de la deuxième ligne. Elle s'est appuyée sur deux critères qu'il fallait cocher. Être présent sur site pendant le premier confinement et travailler en contact fréquent avec le public ou les collègues. 17 familles de métiers ont été retenues. Salariés agricoles, maraîchers, ouvriers des travaux publics, conducteurs, caissiers, manutentionnaires, bouchers, charcutiers, boulangers, aides à domicile, agents de sécurité, agents d'entretien, etc. Au total, 4 600 000 salariés du secteur privé qui, souvent, ont des salaires inférieurs à la moyenne, travaillent dans des contrats précaires, sur des emplois qui peuvent être pénibles, des horaires atypiques et qui bénéficient rarement d'une dynamique de carrière. La prime Macron serait un premier geste en leur faveur, mais l'idée est surtout d'inciter les branches professionnelles qui les emploient à ouvrir des négociations pour revaloriser leur statut.
Olivier Samin et le Premier ministre Jean Castex pourraient faire une annonce lundi en recevant les partenaires sociaux. La politique à l'approche du procès Big Malion, l'affaire des comptes de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012, pour lequel l'ancien président est poursuivi pour financement illégal. Voilà que son ancien directeur de campagne, le très discret préfet Guillaume Lambert, témoigne pour la première fois à la télévision, c'était hier soir dans l'émission Complément d'enquête sur France 2, pour affirmer qu'il a bien alerter le candidat président sur le dépassement de ses comptes, Aurélie Herbemont.
Oui, à l'heure où chacun fourbit ses armes pour sa défense, le directeur de campagne répète pour la première fois face caméra ce qu'il a déjà dit au juge. Guillaume Lambert assure avoir prévenu Nicolas Sarkozy que les dépenses de campagne s'emballaient après des alertes des experts comptables.
La première note, le 7 mars, nous enjoint de corriger la trajectoire.
Vous en parlez à Nicolas Sarkozy de cette note ?
Bien sûr. Et je lui indique la nécessité de faire des économies dans la campagne, de réduire un certain nombre de postes de dépenses.
Alors, un ami de l'ancien président martèle que Nicolas Sarkozy avait autre chose à faire que de s'occuper des comptes. Et ce déballage médiatique, je peux vous le dire, n'est pas franchement apprécié par les sarkozystes qui ont choisi de ne pas riposter à ce stade. Il faut dire que depuis quelques jours, on sent une certaine tension à droite. Les sarkozystes rappelant que les dirigeants de Big Malion étaient des proches de Jean-François Copé, qui n'est pas mis en examen. Jean-François Copé mettant en garde ses amis de LR, il attaquera en diffamation quiconque essaiera de le mouiller. Bref, ambiance un peu particulière avant ce procès qui doit commencer mercredi prochain, même si Jérôme Lavrieux, directeur de campagne adjoint, va demander son renvoi. Un de ses avocats est positif au Covid et hospitalisé.
Procès qui pourrait donc être reporté. Merci Aurélie Herbemont. Les retrouvailles du cinéma ce soir après plus de 200 jours de fermeture des salles depuis le début de la pandémie et puis 4 mois d'affilée quasiment. Mathieu Charrier, il y aura ce soir... pour les Césars, de la fête, de l'impatience et de la revendication.
Eh oui, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, qui sera présente ce soir, devrait être effectivement la cible de nombreuses critiques. Le milieu du cinéma lui reproche de ne pas avoir obtenu la réouverture des salles fermées depuis en cumulé, j'ai vérifié, 235 jours précisément depuis le début de la crise Covid et c'est toujours pas fini. Alors qu'on sait désormais, d'après plusieurs études, qu'on ne se contamine pas au cinéma. D'ailleurs, Roche Dizem, président de cette cérémonie, va en parler dès son discours d'ouverture. On imagine que certains sketchs signés Blanche Gardin, Laurent Lafitte vont aussi y faire allusion. Le cinéma qui est à un moment critique, les tournages commencent à être annulés car des centaines de films attendent de pouvoir sortir. Pour le reste, protocole sanitaire oblige, 130 personnes seulement seront assises ce soir dans la salle de l'Olympia, celle qui peut en accueillir 2000. Il y aura les nommés et les remettants. Doublement testé avant d'entrer, puis masqué, protocole décidé par la préfecture de police de Paris. Alors malgré ce contexte, effectivement, cette cérémonie se doit d'être une fête, un an après l'esclandre lié au sacre de Roman Polanski. Il y a de belles nominations, hein. C'est pas une sous-cérémonie. Emmanuel Mouret, François Ozon, Albert Dupontel, Antoinette dans les Cévennes aussi, qui pourrait tirer son épingle du jeu. Il y a ce César anniversaire qui va être remis à la troupe du Splendide. Ils seront là pour le recevoir. Marina Foïs, donc en maîtresse de cérémonie, mise en musique par Benjamin Biolay et son orchestre, qui interpréteront notamment « Que reste-t-il de nos amours ?» tout un symbole.
Merci Mathieu Charrier. Le temps, Anissa a dit, un temps qui va rester agité cet après-midi.
Oui, avec des averses, Patrick, hein, toute la journée sur tout le pays. Dans le sud, en Provence et Côte d'Azur, là, le temps reste sec, mais le ciel est très nuageux. Sur le Languedoc et la Corse, les averses arrivent cet après-midi. Et puis sur la moitié nord, en particulier sur les côtes de la Manche, nous avons toujours ce vent d'ouest qui souffle très fort, jusqu'à 100 km/h cet après-midi. Des Pays de la Loire jusqu'au Grand Est, en passant par la région parisienne, nous aurons, dans le courant de la journée, des giboulées de Mars qui vont s'enchaîner. L'ambiance est donc très humide. Sur les Alpes, les Pyrénées et le Massif central, c'est le retour de la neige à 1000 mètres d'altitude. Les températures, 8 degrés à Rodez, 10 à Lille et Belfort, 12 degrés à Paris et Strasbourg, 13 à Bordeaux, 14 à Lyon, 16 pour Marseille et 20 la maximale prévue pour Bastia.
Merci Anissa.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Avec nous dans un instant, Delphine Horviller qui signe chez Grasset « Vivre avec nos morts ». À tout de suite.
Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen.
Bonjour Delphine Horviller.
Bonjour.
Vivre avec nos morts, c'est le livre que vous publiez chez Grasset et c'est une bonne partie de votre vie comme rabbin. Vous officiez à de nombreuses obsèques pour y parler de la mort, des morts, consoler les vivants. On s'habitue à cela ?
Non, on ne s'habitue pas à cela et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité écrire ce livre. Bien souvent, les gens me demandaient ces dernières années comment tu fais pour vivre avec les endeuillés, la mort, les cimetières, les soins palliatifs et j'esquivais toujours la réponse. Je répondais une chose et son contraire. Et j'ai compris à un moment donné qu'il fallait que je sois capable de plonger dans cette question, mais à la fois plonger dans ma propre biographie pour essayer de comprendre ce qui me permettait de me tenir aux côtés des morts, ce qui m'y poussait peut-être même aussi parfois.
Et en même temps, vous dites que vous tentez de vous en tenir éloigné de la mort. Vous avez d'ailleurs un rituel pour ne pas ramener la mort à la maison.
Oui, en fait, j'ai développé un rituel. Enfin, c'est voilà, simplement quand je sortais du cimetière, j'avais toujours cette habitude. Je dis j'avais parce que plein de choses ont changé avec le Covid, mais j'avais cette habitude de faire un détour par un café, par un magasin pour essayer de me réinscrire dans la vie. En fait, c'est compliqué. La vie et la mort se tiennent toujours la main. Et je crois qu'on a tous besoin de rituels pour penser ce dialogue et cette jonction.
Se tenir éloigné de la mort, c'est aussi ne pas succomber vous-même à l'émotion, sinon il n'y a pas de consolation.
Oui, et puis surtout quand moi j'officie au cimetière, je sais que la voix que je porte n'est pas que la mienne, c'est la voix d'une tradition d'enchaînement de générations. Elle était là avant moi, elle sera là après moi, et c'est important que les endeuillés qui eux sont effondrés au cimetière et vers qui se tourner et sachent que ce que j'incarne en cet instant va tenir debout et leur permettre peut-être même de s'accrocher pour se relever. Donc il faut que je puisse tenir, ce qui n'est pas toujours simple, parce que ce qui me permet aussi d'officier, c'est bien sûr ma propre vulnérabilité, mon humanité, donc c'est un dosage subtil.
Que vous évoquez dans ces pages bouleversantes sur votre amie Ariane. Là, la frontière est abolie parce que votre amie vous avait demandé de l'accompagner jusqu'à la mort. Par amour, j'aurais dû refuser et par amour, j'ai accepté.
Oui, Ariane était une amie très proche. Effectivement, quand on a su que la fin arrivait, elle m'a demandé d'endosser les deux rôles, de rester l'amie et de devenir le rabbin. Et je savais très bien que ce n'était pas possible. Mais c'est ce que je me suis engagée à faire. Et dans ce livre, j'essaie de raconter ça. C'était un livre compliqué parce que je ne voulais rien trahir, ni d'elle, ni bien sûr de sa famille. Et donc, c'était important pour moi que ce livre soit fait, bien sûr, avec l'accord des proches, de tous ceux dont je raconte l'histoire. Et j'ai essayé de construire ce livre comme une tresse, en fait, d'une certaine manière, entre la vie des autres que je raconte, de la pensée philosophique ou juive, ou ce que j'ai pu apprendre de cet accompagnement d'un point de vue philosophique, et puis la façon dont ça a fait écho pour moi, en espérant que ça puisse servir à d'autres. Parce que finalement, on est beaucoup là pour consoler. En fait, on n'est pas toujours consolable. Il y a des situations dans la vie qui nous laissent inconsolables. Mais on doit toujours se poser la question de comment on pourrait offrir un peu de consolation à l'autre, là où il se tient.
Ce livre et votre réflexion, Delphine Hervilleur, prennent une résonance particulière parce que la mort, elle est tous les jours, presque toutes les heures, dans les bulletins d'information depuis le début de la crise sanitaire il y a un an, des chiffres, le plus souvent une abstraction, des morts invisibles, parfois même pour les familles. On a eu des témoignages ici même. Comment trouver la bonne distance? Est-ce que quelque chose a changé avec la crise dans le rapport à la mort?
Oui, j'écoutais effectivement, dans le côté du studio tout à l'heure, l'enchaînement des chiffres. On a l'impression qu'on a fait qu'enchaîner des chiffres et on le voit bien.
Et c'est tous les jours.
On accumule ces chiffres et on voit très bien que quand il n'y a pas de nom, il n'y a pas de visage, ça ne veut plus rien dire au bout d'un moment. Donc la question, c'est comment on remet des noms, comment on remet des visages. Et le seul moyen de le faire, c'est de remettre dans l'ordre des histoires, de placer des mots sur les histoires. Moi, j'ai la conviction que les récits et les narratifs peuvent nous aider et qu'il y a cette interdiction de faire disparaître les noms, les visages et les histoires, particulièrement où quelqu'un nous quitte. Et donc, voilà, une partie de mon travail, moi, c'est de re-raconter des histoires ou parfois de faire entendre à quelqu'un l'histoire qu'il vient de me raconter sur la personne qui est partie, mais qu'il n'a pas pu entendre parce que, vous savez, parfois, et c'est intéressant de le dire à la radio, je trouve. Parfois, notre oreille n'entend pas ce que dit notre bouche. C'est-à-dire que parfois, le chemin est très très long entre ce que je dis à quelqu'un d'autre et ma propre capacité de l'entendre. Et ma fonction, mais peut-être aussi la fonction d'autres accompagnants, même de psychanalystes, c'est de permettre à une personne d'entendre ce qu'a été son récit. Et donc, d'une certaine manière, de poursuivre un dialogue qu'il a commencé avec quelqu'un qui n'est plus là.
C'est ce qui vous fait dire que vous faites un métier de conteur ou conteuse et de couturier ou couturière.
Oui, c'est drôle parce que finalement, quand les gens me demandent c'est quoi le métier de rabbin, on ne sait pas trop à quoi ça correspond, mais pour moi, c'est très proche à la fois de la couturière et de la conteuse. Alors, à travers l'histoire, c'est des métiers qui ont été plutôt féminins. On a toujours pensé que c'était les femmes qui racontaient des histoires et elles qui cousaient les tissus. Mais en fait, c'est vrai que je m'intéresse à la possibilité des jonctions. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on recoud des fils déchirés et comment est-ce que les mots et les récits peuvent nous y aider?
On parlait de la crise, c'est pas la pandémie qui vous a inspiré ce livre. Vous l'avez commencé en 2015, après les attentats. Vous racontez les obsèques d'Elsa Kayat, la psy de Charlie Hebdo. Et la sœur d'Elsa, Béatrice, vous présente à l'équipe de Charlie comme un rabbin laïque. Ne vous inquiétez pas, elle dit, c'est un rabbin laïque. Et ça vous a surpris, mais cette formule, vous avez fini par l'adopter.
Oui, j'ai sursauté, bien sûr, sur le moment. Je ne comprenais pas ce qu'on attendait de moi. Je me trouvais dans ce cimetière, effectivement, face à une famille juive qui m'avait demandé d'accompagner Elsa, et face à sa famille de cœur et sa famille Charlie. On était dans un temps de polarisation extrême où plein de gens essayaient de nous monter les uns contre les autres, de voir d'un côté ceux qui croient de l'autre, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont attachés à la République, ceux qui sont attachés à la religion. Et ces différences ne rimaient à rien ce matin-là dans le cimetière. On savait bien qu'on faisait partie de la même famille, de la famille regroupée sous le ciel de la laïcité, en fait, qui nous permettait de nous tenir là. Et c'est vrai que ce terme qui m'a fait sursauter, j'ai fini par le revendiquer. Et plus que jamais, en fait, aujourd'hui, ce terme me convient, me semble-t-il.
Oui. Avec la dimension particulière de la religion juive qui n'est pas prosélyte, vous le soulignez. Enfin, il y a un rapport aussi à la société qui est
sans doute
un peu particulier.
Un rapport un peu particulier, mais souvent, quand on dit rabbin laïque, il y a un malentendu, les gens pensent rabbin athée ou rabbin sans religion. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Pour moi, la laïcité est ce qui me permet d'exercer en France aujourd'hui mon rabbinat, parce que pour moi la laïcité c'est la conscience que l'air n'est pas saturé de ma croyance, et que grâce à cet espace vide de ce que je crois, qui fait de la place à ce que vous ou d'autres croient, on peut mieux respirer. Et ce matin-là, c'est vrai, où on étouffait tous au cœur de notre deuil collectif en janvier 2015, j'ai compris que j'allais me mettre en recherche de cet espace non saturé.
Vivre avec nos morts, c'est aussi garder en mémoire les gens qui ont compté pour vous. Votre grand-père, à qui vous dédiez ce livre, le plus grand sage de votre monde, qui était près de vous quand vous avez approché la mort à 10 ans après avoir avalé un bout de plastique.
Oui, voilà, où j'ai cru approcher la mort. C'est étrange parce que maintenant, l'adulte en moi qui écoute ce récit de la petite fille que j'étais à 10 ans, qui a cru mourir un soir, a parfois envie de lui dire, t'exagères un peu, tu risques rien du tout. J'avais avalé un petit morceau de plastique et simplement cet épisode.
Il y a des enfants qui meurent.
Oui, enfin, bien sûr, mais là, je crois vraiment que je n'étais pas en danger. J'avais pas d'obstruction de voie aérienne, mais c'était simplement une perception à ce moment-là très intense que ma vie est en danger, en tout cas ma vulnérabilité, je la touchais du doigt, ma mortalité.
Et puis deux grandes figures qui continuent de vous accompagner, Simone Veil et Marceline Loridan.
Oui, elles sont très présentes, je pense beaucoup à elles en parlant de cet ouvrage. Je pensais aussi beaucoup en entrant, poussant la porte de votre studio à une interview que vous aviez fait d'elle, de Marceline Loridan.
Ah oui, elle était en colère ce jour-là.
Elle était en colère et je me souviens d'un long silence dans le studio. Oui. On avait l'impression qu'un ange passait. Je crois que les gens qui ont écouté cette interview l'ont peut-être jamais oublié, mais en tout cas, ça racontait bien Marceline et la façon dont tellement de fois dans la vie, elle a dit, pardon du langage, merde à la mort, elle tenait la mort à distance, elle savait tenir le morbide très très loin d'elle, peut-être parce que la mort l'avait approchée si souvent, et je trouve que Marceline et Simone, dans leur amitié, ont incarné finalement deux façons de se relever et de tenir la mort à distance.
Mais certains qui vous écoutent en ce moment doivent se dire, mais la mort a toujours le dernier mot, c'est pas vrai ?
Eh ben non, je crois que c'est pas vrai.
Pourquoi ?
En fait, je crois que bien sûr, quand la mort est là, elle est indéniablement là, mais que j'ai la conviction que nos récits, la trace dont on est conscient, la trace des morts et qu'ils laissent dans notre vie, fait qu'on peut poursuivre un dialogue. Et il existe un moyen, même quand la mort est là, me semble-t-il, de dire qu'elle n'aura pas le dernier mot.
Vivre avec nos morts, petit traité de consolation, c'est le sous-titre chez Grasset. Merci beaucoup Delphine Horviller d'être venue nous en parler.
Europe Midi, Patrick Cohen.
Merci de nous avoir suivis dans un instant le 13h avec Marguerite Lefebvre, puis la France bouge. Et la semaine prochaine, Europe Midi sera présentée par Rémi Bostaron. Excellente journée à l'écoute d'Europe 1.